7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des théories du complot. Le 11 septembre, les attentats contre Charlie Hebdo ou encore l'affaire DSK. Les théories du complot se renouvellent sans cesse dans l'écume de l'actualité. D'ailleurs, déjà postées depuis ce week-end pour commenter les attentats de Copenhague. Elles existaient, ces théories du complot, bien avant Internet, mais elles circulent aujourd'hui toujours plus vite, toujours plus loin, malgré les enquêtes aussi qui les déconstruisent minutieusement. Alors, qui sont ceux qui croient que tout est mensonge et manipulation et qu'il y a une histoire derrière l'histoire? Que racontent ces théories aussi sur nos psychologies collectives et une réalité souvent jugée inacceptable? S'agit-il de dérapage de la raison ou d'une idéologie toxique? Les voisins, évidemment, si vous vous interrogez sur ces théories du complot, appelez-nous tout de suite pour dialoguer avec nos invités. Je vous donne notre numéro de téléphone. 33 1 84 22 71 71 dans le studio de 7 milliards de voisins. Pascal Froissart, enseignant chercheur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes aussi l'auteur de La Rumeur aux éditions Belin. Bonjour Pascal Froissart.
Bonjour.
Emmanuel Taïeb, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po Lyon, spécialiste des théories du complot ou conspirationnisme, un mot qui est rentré depuis peu finalement dans la langue française, encore souligné parfois comme faute d'orthographe.
Taïeb. Oui, mais qui, il faut corriger ça, mais qui marche bien, qui dit bien ce qu'il veut dire.
Nous serons également en ligne après le flash avec Fabrice Clément, qui lui est anthropologue et psychologue, professeur au Centre de sciences cognitives à l'Université de Neuchâtel, en Suisse. Allez, je ne résiste pas à vous lire quelques messages d'internautes. Nous ne lirons pas tous ceux qui sont évidemment adeptes des théories du complot et qui disent grosso modo la même chose. Mais par exemple, Aziza nous dit « Moi, je crois aux théories du complot en partie à cause de l'uniformité des informations. Au mot près, toutes les chaînes de télévision, de radio et même Internet donnent les mêmes infos, les mêmes points de vue. De plus, avec l'arrivée de la démocratie et d'une population plus réfléchie, il est impossible, nous dit Aziza, de les diriger par la force, d'où une manipulation subtile que les dirigeants sont obligés d'utiliser. C'est pas systématique, mais ça existe. Voilà, quel dirigeant, c'est pas très bien, hein, mais voilà le point de vue d'Aziza, il est révélateur, vous trouvez
Il est intéressant, parce que d'imaginer que le fait que les gens accèdent à l'éducation change la donne, est intéressant. C'est vrai que depuis le XXe siècle, l'accès à l'éducation est nettement supérieur à ce que ça a été auparavant, et du coup on a affaire aussi à un public beaucoup plus éduqué, et peut-être que ça a des changements. Les théories du complot est peut-être aussi le résultat finalement d'un accès aux médias et d'un accès à l'alphabétisation, disons, plus grand.
Baki, lui, oui, je vous en prie.
Non, mais l'idée, c'est intéressant. Il y a une confusion en réalité entre uniformité et officialité. C'est-à-dire que effectivement, le discours médiatique peut se ressembler. Et c'est lié à des postures journalistiques ou à des sources
auxquelles les journalistes.
Ça veut pas dire qu'il est télécommandé. Ça veut pas dire du tout qu'il est officiel. Et la notion de discours officiel avec au singulier, comme ça, n'a aucun sens dans la réalité d'un fonctionnement médiatique en pays démocratique.
Baki, lui, nous dit les théories à propos du 11 septembre sont tout de même plutôt convaincantes, surtout en ce qui concerne le Pentagone. Voilà, ça c'est l'un des nombreux messages que l'on a reçus sur ce sujet-là. Andy à Port-au-Prince, même s'il existera toujours des zones d'ombre dans beaucoup de ces dossiers, je ne crois pas à toutes ces théories farfelues. Certaines pourraient tenir la route, mais souvent les explications fournies finissent par aboutir sur du n'importe quoi, ce qui les rend pas crédibles pour un sou. Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant. Didier Cherouz, Jonas Malé-Solars sont au standard au 33 1 84 22 71 71. Et voilà quelques points de vue donc des voisins du monde, ce qu'on entendait. Écoutez aussi ce que disaient ces collégiens quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher au micro d'Alice Milo en région parisienne.
Je pense que cette histoire elle est bizarre.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi.
Elle est chelou. Comment il peut oublier sa carte d'identité?
Il y a un mec, il est par terre, on tire sur lui, il meurt sur le coup, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a rien.
Koulibaly, quand il est sorti du magasin, il était menotté. Il est tombé, il était comme ça. Ils l'ont tiré dessus, il est tombé comme ça.
C'est ce que t'as vu sur une vidéo.
Sur une vidéo, je suis sûr. J'ai deux yeux comme je vous vois là. Mais madame, ils vont faire un attentat. Pourquoi ils vont prendre leur carte d'identité? Pourquoi?
C'est illogique.
C'est illogique. C'est impossible, c'est incohérent.
11h, à Paris, il n'y a personne dans la rue. Eux, les terroristes, soi-disant, ils rentrent dans un bâtiment, ils demandent si Charlie, ils sont là. Après, ils disent non, ils sont dans le bâtiment à côté. Ils vont dans le bâtiment à côté, ils se tremblent avec des calages comme si de rien n'était. Non, cette histoire, elle est bizarre, ouais, elle est bizarre.
Il y a des policiers en vélo, ils pédalent même pas, ils sont là, ils sont tués.
Ouais, c'est vraiment un mensonge pour moi, j'y crois vraiment pas un peu.
On pourra jamais savoir.
Stigmatiser l'islam.
Moi, je dis qu'ils ont fait ça pour dire que les musulmans, c'est eux qui font n'importe quoi en France, alors que c'est vraiment pas le cas.
Quand on regarde l'histoire, on voit que quand il y a des tensions, il y a toujours un bouc émissaire. Effectivement, le dernier, le plus grand bouc émissaire, c'était les juifs. Il y a une théorie qui consiste à dire que, effectivement, le fait de stigmatiser l'islam, ça permettrait qu'en cas de guerre, ce serait sur l'islam que ça tomberait. Les musulmans qui prendraient pour tout le monde.
C'est Marine Le Pen. Elle a même refusé de construire une mosquée dans une ville. Pourquoi? On sait pas.
Moi, personnellement, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est vrai. Seulement, il y a des détails qui peuvent porter à confusion. Enfin, qui sont incohérents. Ou... voilà. Mais après, ça dépend des gens. Voilà.
Bon, ils sont jeunes, ce sont des collégiens, ils sont forcément très ignorants de l'histoire du monde. Ils lisent surtout Internet et ils regardent la télévision. Sont-ils la cible des théories du complot, ces jeunes-là qu'on entend dans la confusion de la discussion entre bandes de jeunes?
Le mot cible est peut être discuté. L'idée, c'est qu'en tout cas, il peut y avoir une porosité chez ces jeunes-là pour des tas de raisons qu'il faudrait examiner. Mais il y a aussi, il faut pas les imaginer comme étant uniquement passifs et recevant des messages qui arriveraient d'on ne sait où. Ce sont des gens qui vont se connecter sur des sites, qui discutent entre eux, qui lisent, qui peuvent lire des choses un peu alternatives, généralement sur Internet, et qui donc sont perméables à ce discours, mais parce qu'ils vont aussi chercher ce discours et que ce discours existe et qu'il est porté par un certain nombre d'acteurs. On aura l'occasion en discuter, oui, mais c'est vraiment un discours
qui est construit. Ou ils reçoivent des liens sur Facebook, hein. Ils vont pas forcément les chercher. Absolument. Ils reçoivent des liens sur leur page Facebook et sur lesquels ils cliquent.
Oui,
aussi,
ça peut arriver jusqu'à eux, et là, ils vont avoir un discours construit qui va leur permettre de lire le réel.
Moi, ça me dérange un petit peu qu'on cible comme ça les jeunes, qu'on fasse une sorte de racisme anti-jeunes, qui est pas propre à nous ici en ce moment, mais qui est aussi une posture assez facile. C'est-à-dire qu'on ne donne jamais en ce moment la parole aux jeunes, en particulier en matière d'opinion politique, et c'est très rare qu'on va interroger, qu'on va faire des sondage chez les jeunes pour faire une discussion de sciences politiques. Et là, tout d'un coup, sous prétexte d'aller chercher une parole vraie, une parole spontanée, on va tout d'un coup aller avec, vous l'avez entendu, des jeunes qui ont un accent, qui est des jeunes qui sont donc situés, disons, dans l'univers politique français. Et tout d'un coup, on leur donne la parole pour leur faire dire des bêtises. Alors, je veux mettre un petit bémol. On serait allé dans le 7e arrondissement à Paris, on aurait peut-être eu des point de vue très différent, on aurait peut-être eu aussi, le fait de poser un micro sous le nez de quelqu'un, alors qu'on ne le fait jamais, lui donne l'autorisation de se faire valoir, de rire d'eux-mêmes.
L'intellectuel ultra-diplômé Alain Soral, frontiste, hein, qui effectivement...
Oui, mais ça, c'est un vrai politicien, c'est-à-dire un professionnel de la parole publique. Là on parle d'un micro-trottoir, oui. Et on fait appel donc à une vérité, comme Emmanuel Taïeb le disait, qui est aussi une vérité travaillée par des sources, par Facebook, comme vous le disiez, par un ensemble de sources. Mais ça m'étonne un peu toujours de lorsqu'on cherche, où ça sent mauvais, on va mettre le micro dans la poubelle.
Finalement, alors aujourd'hui, vous diriez que les personnes qui sont adeptes des théories du complot, qui se renseignent, qui cherchent et qui trouvent forcément ce qu'elles cherchent, c'est un public très éclectique aujourd'hui, vous diriez cela ou pas?
Les gens qui vont...
En termes de génération, en termes de niveau d'éducation,
les études qu'on a sur les théories du complot sont assez complexes à analyser parce qu'elles ne ciblent pas justement un groupe social qui serait adepte de la théorie du complot. Ce qu'on voit quand même, et donc votre invité psychologue nous en reparlera peut-être, on voit quand même des dispositions. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes sociaux, pas des groupes sociaux, certaines franges de la population qui partagent une même disposition. Une disposition anti-système, une disposition à ne pas croire systématiquement. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce micro-groupe, on va retrouver des gens qui vont être à la fois adeptes d'une théorie sur les Illuminati, sur les extraterrestres, sur la médecine alternative. Je ne dis pas que je les mets dans le même sac, hein, mais simplement, on voit qu'il y a cette disposition qui est à l'œuvre.
Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup des jeunes comme une des cibles vulnérables quant aux théories du complot, mais ces jeunes-là, alors d'accord, ils sont beaucoup sur Internet, vous l'avez dit, Emmanuel Taïeb, mais ils regardent aussi beaucoup les médias très classiques, c'est-à-dire les chaînes de télévision d'information en continu.
Je ne sais pas s'ils les regardent tant que ça. Je ne sais pas quel est leur rapport à ça. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. S'ils sont dans un rapport de défiance à l'égard de ces images-là, ils vont les regarder en étant précisément dans la défiance et en disant je vais regarder le discours officiel ou le discours étatique et je vais en prendre le contre-pied systématiquement. Mmh. Les adeptes des théories du complot, on en trouve effectivement dans tous les groupes sociaux, dans toutes les classes sociales. Il peut y avoir des dispositions de gens qui sont un petit peu dans la défiance ou un petit peu ethnocentriques et qui ont du mal à se projeter vers l'autre ou qui ont du mal à saisir la complexité de la réalité sociale parce que le monde est extrêmement complexe. Donc il peut y avoir des porosités. Il y a des gens très diplômés qui sont absolument adeptes des théories du complot parce que effectivement, comme on le disait en début d'émission,
ils sont relayés par les médias d'ailleurs. Ouais. Les propos de Jean-Marie Le Pen, c'était pris comme une prise de position politique.
Hein. Oui. C'est ce qu'on voit, hein, c'est que la notoriété des théories du complot est d'autant plus grande que l'accès à la presse est grand. C'est-à-dire plus on lit la presse, enfin plus on se tient informé, plus on est au courant naturellement des théories du complot. Et il y a un rapport donc étrange entre ceux qui sont très informés et ceux qui ont connaissance de ces théories alternatives.
Ce qu'il faut bien comprendre, parce que vous mentionniez Jean-Marie Le Pen, c'est que il faut vraiment que les auditeurs l'entendent. Les théories du complot sont un discours politique. C'est ça l'idée. En tout cas, en tant que politiste, c'est l'idée que je défends. C'est-à-dire que c'est construit par des acteurs politiques. Alors après, c'est construit avec des formes et une rhétorique particulière du complot ou du complotisme parce qu'il y a une manière de l'écrire. Mais au départ, c'est un discours politique. Et donc, quand Jean-Marie Le Pen dit les attentats des frères Kouachi, en réalité, c'est un coup des services secrets, il sait exactement ce qu'il fait. Il va construire ça. Quand il dit ça, il n'a aucun élément, aucun, qui lui permette de l'étayer. Simplement, un, ça lui fait un énorme coup de publicité parce que ça va être pris par tous les médias. Deuxièmement, ça renvoie à la tradition gaulliste et autres des barbouzeries, donc ça va parler à une partie de son électorat, ça va lui permettre de critiquer l'État, la police, l'establishment, et évidemment de semer le doute à l'intérieur des esprits des gens, et en tout cas, du point de vue de son électorat, ce sera extrêmement convaincant. Donc, reprendre des théories du complot, même pour les adeptes ou pour les jeunes qui ont été interviewés, c'est répéter un discours politique, malgré soi, qui a été construit par d'autres.
Alors, vous le disiez tous les deux, Pascal Froissart et Emmanuel Taïeb, il y a une forme aussi de défiance dans les médias classiques, une recherche de médias alternatifs, mais comment expliquer une telle méfiance dans les médias, alors que précisément, les médias n'ont jamais été aussi libres, avec Internet, les lanceurs d'alerte, WikiLeaks, etc. Ça peut sembler paradoxal.
C'est que dans le passé, on a eu des preuves de fautes journalistiques ou de fautes politiques. Parce que les théories du complot cachent effectivement souvent une vraie analyse du débat politique. Mais je ne peux faire que référence à, je ne sais pas, le nuage de Tchernobyl qui, pendant un temps, s'est arrêté aux frontières de la France. On avait là, justement, quelque chose qui était extrêmement problématique sur le plan de l'information.
Oui, mais là, aujourd'hui, on est quelques jours après l'annonce du scandale bancaire, de l'exil fiscal, du scandale HSBC.
Oui,
donc,
combien de temps
ça veut bien
il a fallu
dire
pour
que ça sorte.
Oui. Il a fallu 10 ans, pratiquement, non, 7 ans pour que la HSBC ça sorte.
Mais c'est aussi, ça peut aussi Denis nourrir Robert. Des théories du complot. Les gens peuvent se dire, justement, si ça, il y a un complot international de l'exil fiscal.
La suspicion, le doute. Oui, bien sûr. Mais la théorie du complot, c'est une espèce de grand tout dans lequel on met un ensemble considérable de choses. Et moi, ça me dérange un peu. Il vaudrait mieux analyser point à point les questions et voir que sur les affaires bancaires actuelles, on a non peut-être pas un complot mondial, mais on a une vraie collusion d'intérêts et la collusion d'intérêts c'est pas
mots,
très loin,
donc,
mais bien sûr c'est pas très loin d'un complot.
On essaie d'y voir plus clair. Donc vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous souhaitez dialoguer avec nos invités sur les théories du complot au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de Fès. Bonjour Boubacar.
Bonjour Emmanuel.
Boubacar, je crois que vous êtes nigérien, mais vous vivez au Maroc, c'est bien cela ?
Ah oui, c'est cela.
Voilà, nous vous écoutons.
Pour abonder dans votre sens, les attentats contre Charlie Hebdo m'ont vraiment fait donner la conscience que les théories du complot sont de plus en plus répandu autour de moi. Au début, je pensais que ça concernait plutôt des marginaux ou des gens plus ou moins illuminés, mais là, je me suis rendu compte que mes camarades, mes amis, des gens qui ont des très bons niveaux d'études sont aussi adeptes de ce genre de théorie. Donc, il est presque stérile de discuter avec eux. Bon, je pense que je suis naïf, que je me fais manipuler. Ils m'envoient tout le temps des liens, des vidéos pour essayer de me prouver que bon, le frère Kouachi était mort bien avant et tout cela. Donc j'ai clairement accepté d'évoquer ce sujet avec eux. Bon, je pense aussi quelque part que Oui, je vous écoute.
Oui, oui, c'est-à-dire que Boubacar, vous-même, finalement, c'est vous qui êtes traité de naïf et d'être vous-même manipulé, en fait, par vos amis.
Oui, tout à fait. Ils disent que bon, c'est les médias occidentaux. Quelles sont tes preuves? Je dis bon, j'ai lu ce jeune Afrique, j'ai écouté RFI, mais ils me disent bon, pourquoi ça serait plus crédible que moi, ma source? Tous les cas, ils font partie du système, plus les médias, et c'est la même chose. Je pense que ça témoigne d'un rejet de l'élite de l'Occident. En fait, c'est une sorte d'affirmation de sa identité, de rejeter tout ce qui est Occident.
De la part de vos amis qui sont au Niger ou au Maroc, là, quand vous parlez de vos amis, avec qui vous, dorénavant, vous ne voulez plus aborder le sujet?
Oui, bon, les amis sont principalement au Niger.
Et alors, à votre avis, finalement, comment prend sa source cette vision des choses, ces théories du complot? Est-ce que vous pensez que les gouvernants ont des responsabilités, qu'il faudrait changer certaines choses?
Tout à l'heure, il y a un de vos invités qui parlait de l'histoire du nuage de Tchernobyl. Donc, il y a trop de mensonges en politique actuellement et que, bien sûr, ça ne facilite pas les choses. Quand on pense aux appels de bon, les armes de destruction massive de l'Irak et tout, tout ça là, ce sont des doutes. Bon, parce que quelque part aussi, il y a une mauvaise gouvernance, il y a un mensonge aujourd'hui qui fait répandre la politique. Donc, c'est tous ces appels qui font que les gens sont sceptiques et c'est difficile de les faire croire.
C'est ça. Et vous, ça ne vous empêche pas d'ailleurs de vous interroger régulièrement, même si vous n'êtes pas adepte des théories du complot.
Bien sûr, il ne faut pas aussi abonder et avoir l'autre extrême de penser que tout ce qu'on nous dit, c'est forcément vrai, parce que le doute est permis. Normalement, ce doute doit être corrélé par des arguments solides. Bon, moi, le moyen que je me donne pour lutter contre ça, c'est avoir plusieurs sources.
Oui. Croisez vos sources. Mais vous avez dit au Standard que finalement la solution, ça serait plus de transparence dans la gouvernance.
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que bon, malheureusement, le mensonge est devenu le sport préféré des politiciens. Ouais. En Occident, comme chez nous d'ailleurs.
Ouais. Devenu ou ça l'a toujours été, non? Est-ce que c'est pas le propre aussi de gouverner? Non, je ne sais pas.
Comment oui, en fait, aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, ça prend toute autre allure. Vous avez rappelé tout à l'heure les histoires de Wikileaks et tout, donc. Tout ça est sur la place publique et accessible à tout le monde.
Ouais. Mais ce qui veut dire que quand on entend votre témoignage, Boubacar, ça veut dire que du coup, votre dialogue avec vos amis étudiants est rendu difficile. Dès que vous souhaitez parler de l'actualité avec vos amis étudiants, vous heurtez finalement à ce mur constitué par les théories du complot.
Effectivement. Il s'agit de Boko Haram. Rien que récemment, il y a quelqu'un qui me cesse de m'envoyer des vidéos de Boko Haram. Vous me dites que c'est l'ONU qui arme Boko Haram.
Ah.
C'est la France qui arme Boko Haram.
D'accord. Donc Boko Haram serait une création des Nations Unies. D'accord.
Des Nations Unies, de l'Occident et tout ça. C'est vraiment difficile de discuter avec les gens.
Merci en tout cas pour ce témoignage. Boubacar, donc étudiant nigérien au Maroc. Merci beaucoup de nous avoir appelé pour vos analyses intéressantes. Comment vous réagissez, Muriel Taïeb et Pascal Froissart?
C'est très intéressant ce que dit Boubacar. Plusieurs éléments. D'abord l'idée que l'imaginaire du complot, il est internationalisé ou il est mondialisé. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, l'information circule très très bien. Et donc, il faudrait aussi aller travailler sur la porosité aux théories du complot dans d'autres endroits. Le deuxième élément, c'est la difficulté de discuter de ça avec des gens qui sont convaincus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une foi dans les théories du complot. Et donc, il est très difficile d'abandonner la foi. Et donc, les gens qui sont dans ce doute méthodique et qui finissent par être convaincus qu'il y a un complot, c'est extrêmement difficile de discuter avec eux puisque tout va dans le même sens et ils auront l'impression que ceux qui essayent de les contester font eux-mêmes partie du complot. Et puis, quelque chose qu'on n'a pas dit encore beaucoup jusqu'à présent, mais les théories du complot, même si le terme pose problème, c'est des choses qui sont extrêmement construites et elles sont construites sous la forme d'un argumentaire. C'est-à-dire que non seulement elles peuvent être construites sous la forme d'une narration, mais aussi d'un argumentaire scientifique, on va interviewer des experts, on va refaire des expériences, on va essayer de convaincre. Donc c'est un discours qui peut porter, car c'est un discours de conviction, et y compris d'ailleurs de conviction politique.
On va y revenir justement, parce que les théories du complot, c'est probablement l'une des choses les mieux partagées tout autour de la planète du Nord au Sud. Emmanuel Taïeb et Pascal Froissart, vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash, et vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Il n'y a pas de fumée sans feu, forcément, on ne nous dit pas tout. Voilà le lit des théories du complot. C'est le sujet du jour. On en discute avec vous, Pascal Froissart, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Vous avez publié un livre sur la rumeur aux éditions Belin. Et Emmanuel Taïeb, vous êtes spécialiste du conspirationnisme à Sciences Po Lyon. Et bien sûr, vos appels au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Fabrice Clément, qui lui est anthropologue et psychologue. Bonjour Fabrice Clément.
Bonjour.
Vous enseignez au Centre de sciences cognitives à l'Université de Neuchâtel en Suisse. Fabrice Clément, déjà en tant que peut-être anthropologue et psychologue surtout, qu'est-ce que vous pensez sur le plan psychologique de ces personnalités connues, éduquées, qui propagent à longueur de journée des théories du complot et qui semblent y croire réellement elles-mêmes ?
Alors, on l'a déjà dit, hein, vos invités l'ont déjà mentionné, il s'agit pour ces personnalités connues de professionnels de la communication, en quelque sorte, et ces théories du complot sont, comme un de nos invités l'a mentionné tout à l'heure, sont des théories politiques aussi, et je pense que lorsqu'il s'agit de ce genre de personnages, on a vraiment affaire à une, sans vouloir entrer dans les théories du complot, mais à quelque chose de l'ordre d'une manipulation politique d'un certain nombre d'événements.
Vous voulez dire qu'ils ne seraient pas eux-mêmes sincères sur les théories qu'ils propagent ?
Alors, il n'est pas complètement impossible, là, d'un point de vue psychologique, qu'à la longue, hein, à force de baigner dans ce genre de modèle explicatif qu'on essaie de fournir aux autres, on finisse par voir un peu le monde de cette façon. Mais à mon avis, en tout cas pour les plus politiciens de ces gens, il y a une volonté tout de même assez intentionnelle et politique là derrière.
Vous êtes d'accord? Je sollicite nos invités dans le studio, Pascal Froissart, Emmanuel Taïeb, là-dessus.
Mais c'est une question vertigineuse de savoir si les hommes politiques croient eux-mêmes à ce qu'ils disent.
Oui, ce qui concerne les intellectuels, voilà. Par exemple, qui ne se présentent pas à des élections et qui propagent des rumeurs et des théories du complot.
Ah, ils vendent des livres également, ouais. Hein, et donc ils ont tout intérêt. Mais je ferais peut-être une distinction entre une très vaste majorité d'internautes, de citoyens plus ou moins éclairés, qui font des petites enquêtes dans leur coin, qui accumulent des données, et des professionnels de la parole publique qui justement se saisissent ensuite de toutes ces théories alternatives pour en faire soit un discours politique constitué, soit des livres, soit des conférences. Et donc on a dans le paysage des complotistes une très grande différence entre le citoyen éclairé qui s'inquiète qu'on puisse lui mentir, et il a raison dans ce cas-là de douter, parce que je crois que le doute est constitutif d'une vraie interrogation politique, mais en même temps il faut faire la distinction entre cette personne-là et le professionnel de la parole publique qui, lui, va engranger les bénéfices, qu'ils soient politiques ou financiers, en répercutant ces théories alternatives.
Il y a des entrepreneurs du complot, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le mot qui revient beaucoup en ce moment, c'est professionnel, donc même entre nous, il y a une professionnalisation du complot. Après, la question de la croyance de ceux qui les propagent, à la limite, c'est une question secondaire. L'important, c'est qu'ils utilisent ce discours, croyance ou arme politique ou ressources, pour tout un tas de raisons. Peu importe, l'important c'est que ce discours existe et qu'il faut le travailler comme tel.
Si on revient à la psychologie collective qui anime chacun d'entre nous, finalement, au fil des événements de l'actualité, plus ou moins dramatiques, Fabrice Clément, vous, en tant que psychologue anthropologue, est-ce qu'il n'y a pas dans ces théories du complot un refus de l'inacceptable quand l'actualité est trop terrible ?
Ça peut jouer un rôle, effectivement, mais il ne faut pas oublier, dans ce genre de processus, c'est qu'on est dans quelque chose qui est complètement à l'interface, si vous voulez, du communicationnel, du social et du psychologique. Mmh. Et du coup, du point de vue communicationnel et cognitif, si vous voulez, la forme de méfiance, on parlait tout à l'heure de méfiance dans le contexte politique, mais une certaine forme de méfiance ou de vigilance dans tout contexte de communication est assez normale. Mmh. On prend un risque en acceptant la parole d'autrui, on peut être manipulé, et il est très probable que nous soyons en quelque sorte équipés d'un certain nombre de mécanismes qui se déclenchent automatiquement face à la parole de n'importe qui, si vous voulez, pour se dire, est-ce que vraiment cette personne n'est pas en train de me mener en bateau, si vous voulez bien. Et sur ces mécanismes-là peuvent ensuite se greffer des processus de communication plus ou moins professionnalisés, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont faire que vous allez avoir en tant que simple citoyen, plus ou moins de chances de croire à un certain.
Mais alors, justement, quel est le mécanisme? Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen éclairé, éduqué, qui lit sur Internet, peu importe la presse, les sites, etc., qui est méfiant, y compris dans son alimentation, au lendemain d'un scandale comme celui de la vache folle, par exemple, hein, et qui est donc dans la défiance, et qui, c'est ce qui fait qu'il est un citoyen éclairé, qu'est-ce qui fait qu'il va basculer dans des théories du complot? Je rappelle quand même qu'on a eu 17% des Français à un moment donné dans un sondage CSA pour Atlantico qui pensaient que les attentats de Charlie Hebdo relevaient d'un complot.
Oui, je pense qu'un des facteurs qui joue un rôle probablement important est un facteur d'ordre qu'on pourrait appeler sociologique, c'est-à-dire que les sources qui nous transmettent des informations, notamment les sources institutionnelles, ne jouissent plus, on l'a aussi mentionné, un de vos auditeurs parlait de mensonges comme sport dominant des mouvements politiques, elles sont plus très représentatives d'une très très grande partie de la population. Et les gens qui vont diffuser telle ou telle théorie du complot se trouvent souvent dans une position, en tout cas de leur point de vue, ils jugent comme minoritaire. Et donc, cette espèce de déférence qui est nécessaire dans tout le monde politique, hein, on nous représente à un certain niveau, cette représentation n'est plus ressentie en tant que telle, et du coup la défiance devient encore plus grande. Si là-dessus vous avez toute une série d'affaires plus ou moins louches qui sont dévoilées par les médias, qui se rajoutent sur cette défiance liée au manque de représentativité, vous voyez, vous avez très rapidement...
Dans un progrès de la transparence, là, pour le coup. Hein, mais qui, paradoxalement, en boomerang, sert certaines théories du complot.
Voilà, c'est ça qui est assez curieux et intéressant à analyser aujourd'hui, je pense, effectivement.
Oui, Emmanuel Taïeb, vous souhaitez réagir?
Oui, ça fait plusieurs fois qu'on parle de transparence, et pour moi, ça fait partie de ces mots de notre modernité, du discours récent, enfin des dernières décennies, un mot un petit peu qui cache tout et qui ne dit rien. En gros, la transparence en matière politique, elle n'existe pas. C'est une exigence, c'est un idéal, certes, mais le combat politique a toujours été un combat avant d'être un discours. Et par conséquent, pour faire émerger la vérité, que ce soit en politique ou en journalisme, c'est une véritable recherche, une véritable quête. Il y a un véritable obstacle. Et la transparence, elle ne s'impose pas d'elle-même. Et c'est pour ça qu'il m'apparaît extrêmement normal de non pas de tolérer le mensonge, mais de débusquer le mensonge et de chercher la vérité derrière tout mensonge. Mais de ne pas attendre que la transparence advienne. La quête de la vérité est d'abord et avant tout une quête. Et je crois donc que les gens et donc je parle pas des politiciens ou de ces professionnels du complot qui travaillent pour eux-mêmes, mais je pense plus à tous ces adeptes.
Ça touche pas que les milieux politiques, hein, d'ailleurs, ça touche l'industrie pharmaceutique, etc.,
oui,
par exemple.
Mais donc je pense qu'il est important pour tous ces gens qui passent des heures et des heures à fabriquer des sites et à accumuler des preuves de ces soi-disant complots, je pense que c'est une véritable activité citoyenne. Alors elle ne va pas toujours dans le bon sens, et surtout elle est toujours récupérée, et donc Emmanuel Taïeb a raison de le dire, toujours récupérée par un peu la même frange politique, et donc ça pose problème. Mais je crois pas qu'il faille stigmatiser non plus cette population de citoyens éclairés qui se battent.
On n'est pas adepte de la théorie du complot forcément tout le temps, d'ailleurs on peut l'être sur certains points, sur certains complots, et pas du tout sur le reste. Ça veut dire que c'est une
on est dans le dialogue, on est dans la controverse, et la controverse est tout à fait générative de quelque chose d'intéressant, d'un vrai débat démocratique.
Ouais, et controverse qui n'a jamais été aussi omniprésent dans les médias, hein, débattre, s'interroger en direct, en permanence, alors qu'on n'a pas tous les éléments, c'est peut-être aussi ça, on est peut-être écrasé par l'interrogation permanente dans les chaînes d'information. Nous prenons un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71, Osni est à Neuchâtel également en Suisse. Bonjour Osni.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux invités et aux auditeurs.
Vous souhaitez, je crois, réagir au propos de notre invité Fabrice Clément, qui est au téléphone également à Neuchâtel, dans la même ville que vous, je crois.
Oui, tout à fait. Alors moi, je disais tantôt que de la théorie du complot, on a beau être rationaliste, mais avoir les faits, la réalité de tous les jours et ce qui se passe dans les médias, on finit par commencer à y prêter oreille. Peut-être sans toutefois tomber directement dans un complot. Je prendrais par exemple quand la version officielle finit par confirmer avec des retards, des choses qu'on a souvent dit que c'était des complots, par exemple les attentats de Karachi, les armes de destruction massive. On a vu dernièrement dans un média, dans un média aux États-Unis, un journaliste qui a menti sur la réalité de la guerre en Irak, disant que son avion avait été visé et il passe maintenant, mais à coup pas qu'il avait menti. Donc maintenant on ne sait plus à quoi se fier. Donc la seule chose, moi quand j'étais étudiant, moi j'étais trop rationaliste, dès qu'on parlait complot, le sida est un complot, moi je combattais férocement ça, mais avec le temps, aujourd'hui, moi, avec la diversification des sources, parce que moi, je lis aussi, comme disait tantôt un panéliste, je lis trop les médias alternatifs et je suis branché sur les médias officiels. Et maintenant, quand avec la réalité, on a beau être rationaliste, sans toutefois tomber directement dans le complotisme, mais moi, je commence à prêter l'oreille à certaines choses qui se disent de manière alternative. Donc, c'est pour ça que cette théorie du complot devient la chose la mieux partagée dans le monde actuellement, comme on disait tantôt.
Emmanuel Taïeb.
Je pense qu'il faut, oui, ce que dit Hosni est tout à fait intéressant. Il faut distinguer entre le mensonge politique, hein, Pascal Froissart le rappelait, c'est-à-dire que ça fait partie de la stratégie politique, on va mentir, on va être rusé, roué, on va jouer d'une séduction, et puis autre chose qui nous anime aujourd'hui, qui est au fond l'imaginaire du complot et qui tend à dire que tout ce qui arrive dans le monde, tous les événements humains, tous les événements qui parfois nous dépassent par leur ampleur, sont le fruit de l'action concertée d'un petit groupe d'hommes cachés. Ça, c'est très différent. C'est-à-dire, oui, il y a des mensonges en politique, mais ce qui arrive dans le monde peut être analysé avec des sciences humaines, des sciences sociales, de la sociologie, etc. Il faut bien voir que le monde social est extrêmement complexe et que pour l'analyser, eh ben, ça prend du temps. On peut pas le faire à chaud. On va faire des entretiens. Voilà. Il y a tout un protocole pour faire ça et que, bah, parfois, on n'a pas du tout envie de faire tout ce travail et donc on va attribuer un phénomène ou un événement à autre chose que ce qu'on voit et on va l'attribuer à cette action secrète. Là, il y a quand même une différence, me semble-t-il, entre le mensonge politique et l'imaginaire du complot.
Fabrice Clément, vous êtes toujours en ligne avec nous à Neuchâtel.
Oui, oui. Il y a une petite... j'aimerais bien rebondir sur une petite remarque que je trouve très intéressante de l'auditeur qui disait « J'ai beau être rationnel, il y a tout de même ceci ou cela ». Et en fait, je pense qu'il faut retourner l'argument. C'est pas qu'on a beau être rationnel et que malgré tout, on prête une oreille à ces théories du complot, c'est peut-être parce qu'on est rationnel et peut-être qu'on a une ambition de faire du sens, de faire de la cohérence plus grande que quelqu'un d'autre, que justement on va prêter une oreille à ces gens qui, comme on l'a dit, passent énormément de temps à aligner des détails, à montrer qu'il y a quelque chose qui cloche à un endroit et à un moment donné faire cette hypothèse que peut-être il y a une intention cachée là derrière. Et cette intention cachée permet de faire du sens, tout d'un coup, d'ordonner les événements sur une sorte de ligne chronologique où il y a des méchants, des gentils, des intentions, etc. etc.
Là, vous êtes dans un discours très justement rationnel, où les citoyens éclairés s'interrogent sans fin. Mais il y a aussi, tout de même, vous nous parlez peu de l'émotion. Il y a des événements qui suscitent une telle émotion collective, si on prend les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, le 11 septembre, que forcément, elles suscitent davantage de théories du complot. Alors, quel est le lien entre l'émotion et les théories du complot, selon vous, Pascal Froissart
le lien.
Oui, je vous en prie.
Pardon, je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Effectivement, pendant très longtemps, et là, je tiens à défendre l'approche aussi affective de ce genre de phénomène et pas le réduire à quelque chose de purement cognitif. L'émotion joue un rôle absolument central, y compris dans ces processus de raisonnement. En gros, ce qui a l'air de se passer très souvent, c'est que l'énergie, presque du point de vue littéral, que vous avez besoin pour raisonner, elle est en quelque sorte fournie par cette motivation à qu'il y ait une forme de plaisir ou de déplaisir à entretenir certains types de théories. Et lorsque vous avez tout d'un coup un phénomène qui se produit dans lequel des gens qui sont censés être de votre catégorie sociale ou religieuse ont commis quelque chose de terrible, par exemple, eh bien, tous les éléments qui vont aller en défaveur de cette thèse vont être très fortement valorisés dans l'appréhension que vous allez faire des informations. Et donc, l'affect, si vous voulez, joue un rôle absolument essentiel dans ces
processus. Néanmoins, croire aux théories du complot ne soulage pas l'inquiétude des individus.
Alors, elle ne soulage pas l'inquiétude, par contre, elle diminue en quelque sorte l'anxiété, si vous voulez, pour la focaliser sur, souvent, un groupe assez facilement identifiable, sur lequel vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir un sentiment d'injustice, etc. Mais vous perdez cette
et souvent de haine,
du flou. flou. Voilà, exactement. Vous pouvez détourner ça sur quelque chose de plus, entre guillemets, concret, même si dans le cas présent, ça reste assez peu concret.
Il faudrait peut-être pas réduire les complotistes à des gens d'émotion. Je crois que l'émotion, c'est quelque chose qui nous touche tous, tout autant que nous sommes. Nous sommes des êtres des émotions.
Ceux qui sont tentés par ces théories-là.
Il n'y a pas d'un côté les rationalistes qui seraient loin de leurs émotions et de l'autre les complotistes qui seraient proches de leurs émotions et bouffés par leurs émotions. Je crois qu'au contraire, lorsque les rationalistes, les journalistes, les politiciens interviennent, ils sont aussi émus par leurs affects et par leurs émotions. Je pense que dans la question que vous avez posée, il y a aussi cette question de l'urgence médiatique qui perturbe et pollue un peu le débat. C'est-à-dire, en gros, dans l'urgence médiatique, lorsqu'il s'agit de donner des analyses à chaud, eh bien, on fait aussi beaucoup de bêtises d'interprétation, mais aussi simplement de compréhension. Et donc là, je sais plus trop si c'est un problème d'émotion qui nous touche tous, qu'on soit rationaliste ou pas, le problème simplement de la construction des faits, de la construction du récit narratif, du récit explicatif au fil du temps.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a entendu un auditeur qui était clairement anti-complotiste et victime des complotistes du fait de se sentir un petit peu mis à l'écart. Un auditeur qui s'interroge. Je crois qu'on a maintenant au téléphone dans quelques instants Abdoulaye à Bamako, au Mali.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Abdoulaye à Bamako est en ligne avec nous sur les théories du complot. Alors comment vous vous situez, vous, Abdoulaye, quand vous lisez les médias, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télévision et par rapport à tout ce que nous venons de dire depuis le début de l'émission?
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Abdoulaye, soyez le bienvenu. On vous écoute, vous êtes en direct.
Ouais, moi, je regarde beaucoup la télé, beaucoup même.
Ouais.
Et je vais sur Internet beaucoup aussi. Mais quand vous allez sur Internet, vous trouvez des infos que vous ne verrez forcément pas à la télé.
Ouais.
Vous voyez. Donc, même l'autre jour, quand je regarde la télé, j'ai regardé ça sur Canal Plus. Je voyais un monsieur, c'était un journaliste du Monde, si je ne me trompe pas quand même. Il disait qu'il avait un truc, un Yalim Shalom qui habitait au Panama, qui a aidé Al-Qaïda à financer les attentats du 11 septembre. Le monsieur, c'était un type pas bien, c'était un trafiquant, un diamantaire, c'était quand même un type pas bien, quoi. Donc, il a aidé les gens d'Al-Qaïda à commettre leur attentat aux États-Unis là-bas. Mais c'est que moi aussi, je vois. Il y a des documents visuels, la guerre des Américains dans le Proche-Orient. On nous dit qu'il y a des trucs. Moi, forcément, je ne suis pas adepte des théories du complot, mais je me pose des questions. Est-ce que le complotiste aussi pose des questions? Il faut avoir des réponses sur ça.
Ce qui est intéressant, Abdoulaye, merci de votre appel, c'est que vous établissez clairement une différence entre ce que vous voyez à la télévision et ce que vous lisez sur Internet, hein, comme si les médias traditionnels ne disaient pas tout par rapport à ce que dit Internet, Pascal Froissart.
Et c'est tant mieux, c'est-à-dire naturellement, le métier de journaliste dans les médias les plus écoutés, les plus gros, enfin les plus outillés aussi, est un métier de sélection d'informations, de vérification, mais aussi donc de hiérarchisation de cette information. Et donc là, on peut ne pas s'étonner, surtout, que dans les grands médias ne passe pas la même chose que dans les petits blogs et les petits sites personnels et les choses comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que les grands médias disent forcément la vérité et les petits médias disent le mensonge, ou l'inverse. Enfin, encore une fois, la vérité va émerger dans le temps et dans la controverse.
On n'a pas encore parlé tout de même du rôle de l'industrie culturelle. Aujourd'hui, les citoyens que nous sommes, qui regardent la télé ou qui vont au cinéma, la très grande force des films, des romans, on ne va pas revenir sur l'immense succès planétaire de Da Vinci Code, mais l'industrie culturelle joue, pour des raisons marketing, joue sur justement les ressorts des théories du complot, non Emmanuel Taïeb?
Oui, mais parce que ça marche très bien, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose de romantique romanesque et de fictionnel dans les théories du complot. Donc il est normal que l'art et le roman et la science-fiction s'en emparent. Ça me paraît pas du tout choquant. Au fond, ce sont des miroirs de notre société. Est-ce qu'on n'a pas dit, on l'a dit un
parce
peu
parce qu'il y a toujours eu cette fascination collective finalement pour les mystères, pour les secrets, voilà, bien voilà, avant
c'est,
Internet.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, il y a dans le complot un motif narratif qui a une séduction gigantesque et qui est l'idée que derrière notre réalité un peu terne, un peu désenchantée, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose de mystérieux, il y a des entités, il y a du surnaturel, il y a de l'action qu'on va essayer de lever, il y a des choses à révéler. Donc les théories du complot, elles fonctionnent beaucoup, elles ont cette dimension séductrice et elles fonctionnent énormément à la révélation. Et la révélation, c'est un motif narratif qu'on retrouve dans les contes pour enfants, dans les romans, depuis très 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 longtemps. On va révéler la vraie identité du héros, on va révéler la vraie identité du méchant. Donc il y a cette dimension-là.
Dans la presse aussi, c'est ce qui fait que ça se vend le mieux,
bien
évidemment.
Sûr,
hein,
sûr,
quand on a un scandale HSBC, voilà. Évidemment, ça
enfin
se vend bien.
Enfin, une cause et un responsable.
Voilà, là au moins, on a là le motif narratif va jusqu'au bout. Voilà. Donc il y a cette dimension qui est très très forte, que la fiction reprend, que Da Vinci Code reprend, et qui effectivement est à la base des théories du complot et qui font leur force. Je crois que c'est pas, enfin, il faut pas faire une émission culpabilisante non plus pour les auditeurs. C'est tout à fait bien de douter, c'est tout à fait bien de s'étonner, comme le disait Pascal Froissart, de trouver des écarts d'informations d'un site à l'autre. Ce pluralisme, il est démocratique, il est vraiment important.
Néanmoins, on n'a pas encore posé la question. Est-ce que les théories du complot, vous l'avez beaucoup dit depuis le début, qu'il y a une pensée politique souvent derrière. Est-ce que ces théories du complot sont dangereuses? Est-ce que ce qu'on peut imaginer comme être des dérapages de la raison sont devenus en réalité des idéologies toxiques?
Pas lorsqu'il s'agit de s'informer, mais lorsqu'il s'agit ensuite de croire, et il faut voir de quel côté on croit. Il faut, c'est-à-dire surfer sur Internet pour regarder des théories alternatives, jusque-là, il n'y a aucun problème, et en écrire, aucun problème. Maintenant, aller dans les manifestations et voter pour les gens qui se font fort de propager et de se servir de ces théories du complot pour un combat très propre, là, il faut commencer à s'interroger, et Emmanuel Taïeb pourra peut-être gloser plus avant sur qui est cette frange politique qui se sert des
Et quelles sont là, à l'heure actuelle, les théories du complot qui vous semblent les plus inquiétantes et générantes de la haine par-dessus la haine?
Alors, vous avez dit les mots, c'est-à-dire que souvent, effectivement, ça va se situer aux extrêmes parce que c'est une arme politique que les extrêmes aiment à utiliser parce que ça leur permet d'occuper l'espace médiatique assez facilement. Donc, ils utilisent la rhétorique du complot pour passer dans les médias et propager un certain nombre de messages. Là où ça peut devenir dangereux, c'est effectivement le fait que les théories du complot vont désigner un ennemi. Alors un bouc émissaire, un ennemi surpuissant, un lobby, le lobby juif, le lobby judéo-maçonnique, un lobby extrêmement puissant. Et donc là, le passage du « eux » au « nous », c'est-à-dire le fait de désigner un autre et un autre qui pose problème, là, ça peut devenir dangereux parce que on sait que les théories du complot, alors moyennant tout un tas de procédures, peuvent devenir, au fond, peuvent permettre un passage à l'action. Et donc, dans les deux mouvements, ça peut poser problème. La désignation d'un ennemi et le passage à l'action contre cet ennemi. Et donc, les théories du complot, certaines théories du complot, on le sait historiquement, peuvent permettre un passage à l'acte. Si on prend un exemple ancien, mais qui a malheureusement très bien marché, qui sont les protocoles des sages de Sion, qui sont un faux forgé par la police tsariste au début du XXe siècle et qui laisse penser que les juifs voudraient comploter au niveau mondial. Ces protocoles des sages de Sion, qui sont constamment réédités jusqu'à aujourd'hui, ont très bien marché. C'était un best-seller de l'époque au début du XXe siècle. Ils ont été lus par les dirigeants nazis. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est la cause d'eux, mais
un
des ressorts, et en tout cas l'imaginaire d'une lutte apocalyptique entre les Aryens, pour reprendre les termes de l'époque, et les Juifs, et ça a contribué à ce mouvement de haine et au déclenchement de la haine. Donc ça peut compter, il faut être méfiant quand même sur les théories du complot.
Il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on accueille un dernier auditeur, Dimitri, qui est à Dakar. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Dimitri, vous êtes étudiant en médecine et vous vous interrogez sur ce que peut révéler l'histoire aussi à long terme, après les événements, je crois.
Oui, c'est ça. Voilà. En écoutant déjà le teaser de l'émission, vous posiez la question « Pourquoi tant de crédulité ?» On pourrait se demander « Pourquoi tant d'incrédulité ?» Si je prends l'exemple du 11 septembre, en lisant les versions dites officielles, on a beaucoup de réponses. Et il y en a aussi au moins autant de questions qui se posent et qui ne sont pas éclaircies. Du coup, on va se rabattre vers les versions alternatives. On a un certain nombre de réponses et tout ça, mais avec le recul, on se rend compte qu'il y a des raccourcis et même beaucoup d'excès. Et du coup, bon, vu qu'on dit que les fictions d'aujourd'hui sont les réalités de demain, on attend peut-être à la parution c'est, comment dire, les mémoires de, des acteurs de l'histoire comme par George Bush ou Colin Powell, on aura peut-être une meilleure vision de ce qui s'est passé.
Oui, est-ce qu'on peut imaginer que les mémoires de George Bush ou Colin Powell pourraient faire des révélations absolument fracassantes sur le 11
J'en ai pas la conviction, je vais vous dire pourquoi. Parce que par exemple, quand on voit toutes les révélations qui sont passées par Wikileaks, il n'y avait rien qui portait sur le 11 septembre. Voilà, donc on a du mal quand même à imaginer qu'un complot, s'il y a eu un complot autre, un complot intérieur pour le 11 septembre, avec des dizaines et des dizaines de gens qui seraient dans la confidence, que ça n'apparaîtrait sur aucun télégramme ou aucun échange en interne.
Alors néanmoins, il existe de vrais complots. Il y a un dictionnaire des complots, qui recense à peu près 1000 complots et qu'on peut lire. Et puis, il y a bien sûr, pour ceux qui ont des doutes, des sites spécialisés aussi anti-complots, Oxbuster, Conspiracy Watch, également en langue française. Merci à vous, Pascal Froissart, enseignant-chercheur en sciences de l'information. Vous avez publié La Rumeur aux éditions Belin. Emmanuel Taïeb, merci aussi. Vous êtes spécialiste du conspirationnisme à Sciences Po Lyon. Merci à vous, les voisins, pour vos interventions en direct. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Didier Cherouze. Demain, 7 milliards de voisins, ce sera l'Afrique qui bouge une fois par mois. La parole est aux jeunes qui veulent entreprendre sur le continent. Didier à côté, le coach, vous écoute, vous conseille pour tous vos projets business ou aussi bien humanitaires. D'ailleurs, vous nous envoyez vos projets dès maintenant à 7milliards@rfi.fr et vous pourrez dialoguer en direct avec Didier à côté demain. D'ailleurs, ça n'est pas un complot. On ne vole pas vos idées quand on vient coacher vos projets. À demain.